j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous n'êtes pas trop déçus de revenir dans une atmosphère tristement pacifique. Il n'y a pas de... c'était beaucoup plus motivant quand il y avait la police, il y avait le danger. Donc, voilà. Nous sommes... Donc, dans les leçons précédentes, je suis parti d'une simple constatation. Je ne suis pas ma vie. C'était le point de départ de cette réflexion sur le besoin de fiction et sur ce que la fiction, la littérature, nous dit. Je ne suis pas ma vie. Et on la voit, cette non-identité, on la constate dès le début de la littérature, les plus anciennes formes littéraires, une des plus anciennes comme le poème épique. On voit dans l'Iliade ce que le malheur signifie, ce choc du destin, cette impossibilité de prévoir le résultat de nos efforts. Nous sommes les jouets des dieux, semble nous dire Homère, et nous avons vu aussi qu'il y a un écho de cette littérature au XXe siècle. J'ai pris comme exemple les récits de la Columa de Chalamov, où l'homme est le jouet des dieux, mais ce ne sont pas de véritables dieux, ce sont des démons qui se sont auto-divinisés, des êtres humains démonisés. On a vu aussi que le poème épique, on nous présente ce choc, l'explicitation morale de cette difficulté fait l'objet de la tragédie qui réfléchit, entre autres, aux causes de cette malédiction, aux causes de ce malheur qui est parfois causé par la transgression, vous vous souvenez, d'un interdit fondamental concernant soit la vie de la famille, soit celle de la cité. Et c'est une réflexion donc sur les conflits entre les hommes et les conflits entre les cités et les dieux. Dans la tragédie qu'avant elle, le poème épique vous présente donc cette non-identité, cette l'homme et sa vie, cette impossibilité de prévoir le résultat de nos efforts. Et comment donc, immédiatement, il se pose le problème, comment unifier la vie, comment créer des modèles qui rendent possible, d'une certaine manière, la maîtrise de notre vie. Comment pouvons-nous maîtriser notre vie et surtout comment la littérature de fiction, nous propose des modèles d'unification de l'existence. Et on a parlé rapidement, on va revenir un peu aujourd'hui de là-dessus. On a parlé un peu de le modèle stoïcien proposé par le roman grec, par le roman par les plus anciens romans, qui nous offre l'image d'un être humain impassible, d'un être humain qui n'est pas du tout sensible aux variations de la fortune. Nous avons également vu que le roman médiéval nuance en quelque sorte ce modèle et qu'il juxtapose et essaie de créer une synthèse entre une certaine imperfection humaine que j'ai cru pouvoir attribué à la réflexion chrétienne sur l'existence. Donc, ce roman médiéval qui allie une réflexion sur l'imperfection et sur la dignité chevaleresque. Dans ce cas, vous vous souvenez, nous avons parlé de Yvain, où on voit la difficulté des liens entre les êtres humains, la difficulté des promesses dans Lancelot, la difficulté causée par les désirs, et dans Éric et Enide, il y a la difficulté des différents chemins de la vie. Enfin, c'est même, on n'a pas parlé de Perceval, mais il y a, Perceval est le roman le plus mystérieux de Chrétien de Troyes, il y a un mystère du devoir. On ne connaît pas notre devoir, nous ne savons pas toujours ce que nous devons faire. Enfin, nous sommes passés ensuite à une réflexion au second degré sur la difficulté d'adhérer à notre vie. Nous avons pris comme exemple l'image du théâtre du monde. Comment vivre dans un monde qui est en grande partie illusoire, pourrait être présenté allégoriquement comme une illusion. On a parlé de Shakespeare, de Calderon et de Gorky. Et enfin de Ionesco, qui, nous, dans Le Roi se meurt, nous propose une réflexion sur la manière de sortir de ce monde. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la question, approfondir un peu notre réflexion sur nos tentatives d'unifier notre vie et réfléchir un peu à nos raisons d'agir et à notre liberté d'action telle qu'elle est modelée, telle qu'elle est imaginée par la littérature. Je voudrais faire un détour par la discussion de toute cette thématique chez des critiques américains à la fin des années 90, des personnes que je connais bien et qui m'ont beaucoup influencé et aidé à réfléchir à ces questions. Je parle de mon ancien collègue à Princeton, Carol Emerson, de Michael André Bernstein, qui est à Berkeley, en Californie, que j'ai connu en Californie, et de Saul Gary Morson, qui enseigne à Northwestern, donc à Chicago, qui est, pour ainsi dire, un voisin. Ils sont tous des comparatistes et ils travaillent surtout sur la littérature, surtout Carl Emerson et Morson travaillent sur la littérature russe, et ils ont réfléchi tous à l'œuvre de Mikhaïl Bakhtin. Vous savez, Bakhtin, c'est un grand poéticien et aussi philosophe qui est connu en France depuis plus d'une trentaine d'années grâce aux efforts de Tsvetan Todorov et de Julia Kristeva. Alors, la réflexion de Bakhtin d'une manière plus discrète, mais surtout celle de Emerson, Bernstein et Morson, a lieu dans un contexte politique qui doit être mentionné, un conflit typique pour le XXe siècle, heureusement on n'en est plus là, entre utopie et liberté. Et ces critiques littéraires, ces spécialistes de la littérature, prennent tous une position qui est à la fois antidéterministe et anti-utopique. À savoir, ils sont contre l'idée que l'homme n'a pas le choix dans l'histoire. Ça, c'est le déterminisme. Ça y est, nous n'avons pas le choix. Nous sommes, comme on dit, dans telle ou telle période, par exemple, maintenant nous sommes dans ce qu'on appelle d'un ton un peu pieux, comme ça, doux. Parfois j'entends des gens dire, on ne dit plus la modernité, on dit notre modernité. Et il faut immédiatement sentir comme une sorte de... se sentir ému, avec une certaine tendresse. Comme on disait à l'époque, notre patrie. Maintenant on dit notre modernité. C'est un point de vue un peu antidéterministe. On n'est pas vraiment coincé tout à fait dans telle ou telle période, même si elle est la nôtre. Et d'autre part, ce n'est pas vrai qu'on n'a pas le choix. ils disent ces critiques, mais aussi ils sont anti-utopiques, c'est-à-dire nous ne pouvons pas choisir comme nous l'entendons. C'est pas possible de tout choisir. Toutes les voies ne sont pas tout à fait ouvertes. La liberté est niée tout à fait, est niée par le déterminisme historique selon eux, mais elle est aussi menacée, elle est menacée par la mise en place de dispositifs utopiques. Ils apprécient tous la liberté humaine et ils valorisent les écrivains qui la représentent. Ils aiment tous, en particulier Dostoïevski, et vous verrez, on nous parlera de Dostoïevski. Et ils aiment Michael André Bernstein aussi et admire beaucoup le grand écrivain autrichien Robert Musil. Leur argumentation est double et elle est précieuse. Morsan souligne les erreurs de la vision historiciste exagéré d'un certain historicisme dogmatique. Je ne parle pas ici de la connaissance légitime, normale et très très utile de l'histoire, mais d'un historicisme exagéré. Et il a créé le terme que j'apprécie et que j'adopte de chronocentrisme. Vous savez, on parlait à l'époque, il y a 30 ans, dire centrisme, c'était comme une sorte de blâme, d'insulte. Si on était centre, par exemple, si on était logocentriste, c'était très mauvais, je vous assure. Si vous étiez traité à l'époque de logocentriste, c'était presque comme un ennemi de classe avant. Ouais. Bon, qu'est-ce que ça signifiait, logocentriste? Là, disons, ma compréhension des choses a des limites. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Mais chronocentrique signifie celui qui s'imagine que le présent est le centre de l'univers, selon Morrison. C'est l'incapacité d'apprécier les périodes passées à leur juste valeur. Nous avons déjà parlé un tout petit peu de ceci en faisant référence, j'ai fait référence il y a quelques semaines, à la philosophie de l'histoire de Ranke. Léopold Ranke, ce grand historien allemand, qui disait que chaque époque se présente seule devant Dieu. C'est-à-dire chaque époque a une certaine responsabilité qui est seule, qui lui incombe à elle. Et donc on ne peut pas vivre pour l'avenir ni s'imaginer que tout ce qui s'est passé jusqu'à nous a comme résultat, disons, est orienté vers nous. Mais donc, pour vous donner tout simplement un petit exemple littéraire, dans l'édition d'un folio de l'Iliade que j'ai employé pour tirer mes citations il y a quelques semaines, sur la quatrième, c'est une édition ancienne, alors j'ai depuis longtemps, sur la quatrième de couverture, il y avait une présentation de l'Iliade qui s'était terminée par ces mots, et on parle de Hector, le premier héros moderne. Okay. Pauvre Hector. Non seulement il a eu le destin, le triste destin qu'il a eu, mais en plus il existait pour nous, pour nous annoncer, vous et moi. Voilà un exemple de chronocentrisme. Hector vivait en fait pour sa propre, dans sa période, pour elle, et il faut respecter, essayer de comprendre ce qui s'est passé là. Mais vous voyez, j'ai dit, Hector ne vivait pas pour nous, et en disant que, en croyant que les époques précédentes nous préparent en quelque sorte et montent peu à peu jusqu'aux cimes béantes où nous nous trouvons actuellement, consiste à faire preuve, selon Morrison, de whiggisme. Whiggisme, c'est un mot qui n'est pas traductible. C'est whiggisme. Les whigs, c'était les libéraux anglais du 18e, 19e siècle, qui pensaient que l'histoire est un progrès constant qui conduit nécessairement au whig. Donc, nous sommes le but de l'histoire. Nous sommes le but de l'histoire. C'est une immense, je ne dis pas dire erreur, mais c'est une, Il y a un immense plaisir à s'imaginer que toute l'humanité a fait des efforts parfois louables pour conduire à notre époque. Et en littérature, en histoire de l'art, cette idée a été formulée dans la première moitié du XXe siècle à plusieurs reprises. Par exemple, en histoire de l'art, l'historien américain Clement Greenberg pense que, disons, il y a comme une sorte de logique interne de l'histoire de l'art qui conduit nécessairement à ce qu'il aimait lui, enfin, de la peinture abstraite. Ou alors, il y a le critique allemand littéraire Hugo Friedrich qui essaie de montrer que toute la poésie conduit nécessairement à la poésie moderne. Il y a d'autres exemples. Enfin, à un moment donné, c'était véritablement un lieu commun de la critique littéraire, ce type de whiggisme, comme l'appelle Morrison, je ne sais pas quel nom on pourrait lui donner, j'attends des suggestions. Il y a une autre erreur que nous faisons souvent, et celle-ci est vraiment une erreur. Je suis convaincu qu'il ne faudrait pas la faire. C'est ce que Morrison appelle le hypersélectionnisme. L'hypersélectionnisme. Vous savez que dans la doctrine, dans la théorie darwinienne, les espèces triomphent et peuvent survivre si elles s'adaptent si elles sont adaptées au milieu, à leur milieu, à l'environnement. Et celles qui ont disparu grâce à la sélection naturelle. Et en quelque sorte, sans que chez Darwin cela soit souligné, on ne peut pas ne pas se dire que ceux qui ont disparu mais ont bien mérité de disparaître, parce qu'ils n'ont pas su. Les dinosaures n'étaient pas suffisamment intelligents. C'est pour cela qu'ils ont. C'était trop grand. Enfin, ils n'étaient pas adaptés ou adaptables. Bon. Mais de nouveau, chez Darwin, il n'y a absolument pas ce type de jugement moral. Mais en histoire, souvent, on est très tenté de dire que ce qui a disparu méritait de disparaître. Ce qui a péri mérite son destin. Et même chez Bakhtin, son jugement du roman héroïque français du XVIIe siècle est extrêmement rapide et négatif. Il parle de mademoiselle de Scudéry je ne sais même pas s'il cite Calprenède, mais enfin, dans une note en bas de page, comme des auteurs minables qui ont mérité de disparaître et qui ont eu un succès un peu ridicule. On ne sait pas pourquoi. Et ça ne vaut même pas la peine de réfléchir à cette littérature. Elle a disparu, elle a péri, elle mérite son destin. C'est pas vrai, ce cinéma, absolument. Il y a un phénomène que auquel nous assistons tous à n'importe quelle période, celui des redécouvertes littéraires. Il y a des choses qu'on a considérées comme inadaptées, comme mauvaises, qui ont disparu et qui ont été redécouvertes. Et vous savez que, ce n'est pas le cas en Angleterre, mais en France, vous savez que Shakespeare était considéré au XVIIIe siècle comme un auteur sauvage. Enfin, Voltaire le respectait, mais en même temps trouvait cela très, très, très étrange. Shakespeare a été redécouvert véritablement en France, ou découvert en France et redécouvert ailleurs, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Donc, et de nouveau, de nos jours, je vais citer aujourd'hui des passages de Madeleine de Scudéry dans une belle édition qui vient de sortir, Garnier Flammarion. C'est du très très bon travail, c'est extrêmement intéressant. Ce qui a péri n'a pas nécessairement mérité de périr. Ce qu'on a oublié n'est pas nécessairement voué à l'oubli. Hein. Donc chronocentrisme, whiggisme, hypersélectionnisme, ensuite anachronisme. Anachronisme, ça c'est un, un péché inévitable, un vice difficile à éviter, chercher partout nos propres soucis. L'anachronisme signifie... Voilà, je vais vous lire un tout petit peu un passage de Dominique de Fromentin. C'est un texte que, personnellement, j'apprécie beaucoup, parce que c'est un des rares textes du 19e siècle français qui n'est pas orienté tout à fait vers l'idée de réussite sociale. Vous voyez, Balzac crée cette préoccupation de la réussite sociale pour le roman, il insiste beaucoup là-dessus, et cette préoccupation reviendra sous diverses formes chez tous les auteurs français du 19e siècle, chez tous les romanciers français, chez Stendhal sous certaines formes, chez Flaubert d'une manière un peu désabusée, chez Zola d'une manière tout à fait amère, mais chez Fromentin est un des auteurs qui aurait pu, disons, écrire en Allemagne. Il est très lié, disons, du point de vue de son esprit, à des auteurs que j'admire beaucoup comme Stifter ou même Fontane, où la question de la réussite sociale n'est pas la question principale. C'est pas du tout une question principale. Et chez Fromentin, c'est le cas. Et voilà, il s'agit d'un personnage qui a un certain talent littéraire. Il essaie même d'écrire. Il écrit bien, mais il se rend compte quand même que son écriture est distinguée. Mais comme il dit, j'étais le résultat de ses critiques impartiales. Faites aussi méthodiquement qu'une liquidation d'affaires, dit le personnage, fut que j'étais un homme distingué et médiocre. J'avais eu d'autres déceptions plus cruelles, continue-t-il. Celle-ci ne me causa pas la plus petite amertume. D'ailleurs, c'était à peine une déception. Beaucoup de gens auraient jugé cette situation plus que satisfaisante. Je la considérais tout différemment. Ce petit monstre moderne qu'Olivier, un de ses amis, nommait le vulgaire et qui lui faisait une si grande horreur et qui le conduisit, vous savez où, à la tragédie, je le connaissais, tout comme lui, sous un autre nom. Donc cette vulgarité, enfin c'est quelqu'un qui réagit à la vulgarité du 19e siècle, comme Balzac d'ailleurs. Il habitait aussi bien la région des idées que le monde inférieur des faits. Il avait été le génie malfaisant de tous les temps, il était la plaie d'une autre. Il y avait autour de moi des perversions d'idées dont je ne fus pas dupe. Je ne regimbais point contre les adulations qui ne pouvaient plus en aucun cas me faire changer d'avis. Je les accueillis comme la naïve expression du jugement public à une époque où l'abondance du médiocre avait rendu le goût indulgent et émoussé le sens acéré des choses supérieures. Je trouvais l'opinion parfaitement équitable à mon égard, seulement je fis à la fois son procès et le mien. C'est-à-dire, il veut dire, j'ai eu du succès, mais dans une période où il y a beaucoup de gens qui ont du succès, et au fond, si on n'est pas véritablement un génie, ça ne vaut pas la peine de continuer à se pousser dans ce monde un petit génie médiocre. Ouais. Donc il se rend compte qu'il serait plus heureux et plus satisfait s'il se retirait. Il mène une vie heureuse à la campagne, il se marie, il a des enfants, il adore une déception amoureuse aussi. Enfin, je ne veux pas entrer dans les détails. Mais donc c'est un point de vue un peu à part dans la littérature française du 19e siècle. C'est quelqu'un qui dit la réussite sociale n'est pas le plus grand bien. N'est pas le problème. Il se justifie, comme vous voyez, il considère qu'il y a un peu trop d'agglomération dans la poursuite de ce but de réussite sociale. Donc il se retire. Bon. Voilà un exemple donc de chercher partout nos propres soucis. Je cite un critique littéraire qui a, dans les années 50, a décrit. De la manière suivante, Dominique. Il dit, Dominique, ce roman éthéré, le seul acte sensuel y est un baiser. C'est vrai, un seul baiser. Hein. ça le dérange. Imaginez un film contemporain où il n'y a qu'un baiser. Donc, donc ce roman éthéré, nous sommes dans les années 50, est assez brutalement un roman de classe. Il ne faut pas oublier que Fromentin, dont les histoires de la littérature nous rappellent avec componction la passion blessée et le désenchantement romantique, fut parfaitement bien intégré dans la société du Second Empire. Reçu dans le salon de la princesse Mathilde, invité de Napoléon III à Compiègne, etc. En fait, dans l'œuvre de Fromentin, la campagne, quand on y regarde un peu plus près, est un lieu socialement lourd. Dominique est un roman réactionnaire. Le Second Empire est ce moment de l'histoire française où le grand capitalisme industriel s'est développé, etc. Des choses qui n'ont véritablement aucun rapport avec, ou un rapport extrêmement faible avec ce que Dominique veut nous dire, mais qui évidemment des choses qui font partie des soucis, des critiques des années 50. C'était une période où le marxisme était extrêmement important, donc on cherchait partout exactement ceci, la lutte de classe, la réaction ou le progrès, le capitalisme, ainsi de suite. Voilà un exemple dans la Corée. Ou je finis avec cette énumération des erreurs d'une vision historiciste exagérée, ce que toutes ces critiques que je cite appellent le backshadowing. C'est un terme anglais qui est le contraire qui est construit d'après un autre terme de la critique littéraire américaine et anglaise, foreshadowing, qui annonce préfiguration. Vous savez que souvent dans les romans, il y a des éléments de préfiguration. Par exemple, je relis maintenant pour la combienième fois les illusions perdues dont nous allons parler la semaine prochaine. Et vous savez que le personnage Lucien de Rubempré, après toute une série d'aventures en province et à Paris, et au bord du suicide, et il est sauvé du suicide par un personnage énigmatique qui est homosexuel, et on comprend, Balzac est très discret, mais on comprend très bien, et qui aura une liaison homosexuelle avec Lucien de Rubempré. Et déjà au début du roman, dans la description de Lucien, Balzac note parmi toutes sortes d'autres caractéristiques, il note les hanches féminines de Lucien de Rubempré. Voilà, c'est ce que les critiques américains et anglais appellent foreshadowing. C'est-à-dire, ils annoncent déjà, ils sèment déjà dans le cerveau du lecteur un détail qui aura son sens seulement très tard, à la fin, comme si, disons, il y avait une unité. Hein. Mais foreshadowing, vous verrez tout de suite qu'on va critiquer le foreshadowing aussi, mais ces critiques créent une notion symétrique, celle du backshadowing. C'est-à-dire, j'ai traduit cela en français par rétrofiguration, si possible, hein, comme préfiguration et rétrofiguration. Et nous faisons cela tout le temps. Il suffit d'ouvrir le journal, il y a des rétrofigurations constantes. Par exemple, il y a souvent, on dit, X est né, mettons, à Bourges, en 1880, je ne sais pas quoi, et entre parenthèses, c'est l'année où, un peu plus loin, en Autriche, naquit Adolf Hitler. comme si les personnes qui étaient nées à Bourges, par hasard, puisque évidemment il y a beaucoup de gens qui sont nés la même année que Hitler et même le même jour que Hitler, comme si cette personne qui était dans la bouche pouvait avoir quoi que ce soit en commun. Mais il faut savoir cela. C'est une rétrofiguration. Des choses qui se sont passées beaucoup plus tard sont projetées sur le bas. Et donc, on arrive à nous faire croire par la rétrofiguration que certaines choses, que certains événements étaient inévitables. Que des choses qui ont eu lieu étaient elles ne l'étaient pas, veut dire. Bon, si par exemple, la Première Guerre mondiale était-elle inévitable? Si on prend une position déterministe, non, bien entendu, elle était inévitable, mais en réalité, il aurait sans doute pu être évité. Et tout dans l'opinion de ces critiques, tout le roman de Mouzil, L'homme sans qualité, est fondé sur ce jeu, précisément sur ce jeu, sur ce jeu ironique qui montre que tous ceux qui vivaient juste avant 1913, juste avant la Première Guerre mondiale, n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Ils préparaient tous ce grand jubilé de l'empereur Franz Joseph, qui malheureusement n'a jamais pu avoir lieu parce qu'évidemment la guerre a eu lieu et l'Autriche-Hongrie a été sacrifiée, ainsi de suite. Bon. Est-ce que les choses auraient pu ne pas avoir? Ou alors, il y a beaucoup de romans consacré à cet événement absolument horrible, sinistre, un des plus tragiques de l'histoire du monde, certains disent même le plus tragique, la Shoah. Et il y a des romans qui nous font croire que la Shoah était inévitable, d'une part, et aussi prévisible, d'autre part. Ceci est une forme de backshadowing. On aurait pu l'éviter, mais c'était très difficile. C'était très, très difficile prévoir. Donc, portant sur le cadre historique, ces critiques défendent le caractère imprévisible de l'histoire. Là, jusqu'ici, je ne peux que, personnellement, puisque je dois exprimer mon opinion, je ne peux qu'être d'accord avec ces points de vue. Nous passons maintenant à l'application de ces idées à l'action individuelle, au destin individuel. Et si on essaie d'appliquer à l'individu ce type de raisonnement, on arrive à l'idée que nos vies ne sont pas fermées. Nos vies ne sont pas fermées, ne sont pas données d'avance. Et que chacune de nos actions est, jusqu'à un certain point, imprévue, donc libre. Et si c'est comme ça, c'est difficile de ne pas voir que la tradition narrative a négligé cet aspect, en grande partie. Elle a beaucoup négligé le caractère imprévisible de nos actions, puisqu'on a beaucoup insisté sur l'unité de l'œuvre. On a beaucoup toujours insisté sur l'impression que l'œuvre doit donner à son lecteur. Et il y a cette profonde satisfaction traditionnelle, mais elle est quand même, elle a toujours existé, elle continue d'exister, qui est la joie de sentir qu'une œuvre, comme disait Aristote, a un début, un milieu et une fin. Et qu'on sent bien cela, on approche à la fin de la fin. La tragédie classique, néoclassique, la nouvelle, le roman sont fondés sur ce bonheur de l'unité de l'œuvre. Il a insisté aussi la tradition narrative sur la logique du dénouement. Le dénouement doit être bien motivé. Un dénouement doit. Les théoriciens de la tragédie en Italie, en France, savaient bien que avoir des dieux qui arrivent à la fin de la tragédie et vous donnent le résultat final est une est une formule faible. C'est faible, il faut que le dénouement sorte normalement qu'il y ait une certaine logique, sorte logiquement des actions et des passions des personnages. Hein. Et que les actions doivent être motivées. Les actions doivent être bien motivées. Un bon écrivain est celui qui motivait bien ses personnages. Vous savez, Balzac fait de remarquables efforts pour expliquer les actions de ces personnages. Les personnages de Balzac sont souvent capricieux, prennent souvent de mauvaises décisions, ils changent souvent d'avis, mais à chaque étape, on sait exactement quel est le calcul de ces personnages, quel est le rapport entre le calcul momentané et la personnalité de celui qui agit, et quel est le rapport entre cette personnalité, sa famille, son origine sociale, les antécédents historiques, ainsi de suite. Et c'est dans cet esprit d'unité narrative, d'une certaine logique bien motivée du dénouement et une logique bien motivée des actions, que le foreshadowing, que le présage, la prévision, préfiguration est un instrument puissant. Les premiers échecs de Lucien de Rubempré à Angoulême annoncent ce qui va se passer plus tard à Paris. Dans Proust, nous avons le destin de Swann, un personnage extrêmement jaloux, qui préfigure la jalousie maladive infantile, je dirais, du personnage de Marcel. Or, on nous raconte, ou plutôt Morson nous raconte, que celui qui a découvert véritablement l'imprévisibilité de l'action humaine serait Dostoïevski. Et que chez Dostoïevski, les personnages vraiment sont libres, vous voyez. Ils font un peu ce qui leur passe par la tête. Ok. Alors, comment évaluer toutes ces thèses, cette réflexion sur la liberté est précieuse et nous avons besoin de cette réflexion pour voir comment les écrivains nous proposent des modèles de maîtrise de notre existence. Et, je viens de dire que, effectivement, le whiggisme, le hypersélectionnisme sont autour de nous. Ça fait partie de notre de l'atmosphère de la critique littéraire contemporaine. Tout conduit à la littérature moderne. Tout mène à Proust. Ce que nous ne lisons plus, c'est-à-dire ce qui ne se trouve pas dans Folio ou dans Garnier Flammarion, est mauvais, et ainsi de suite. C'est comme ça. Heureusement, cette situation change peu à peu grâce au progrès de l'érudition. Je viens de recevoir une belle édition de Zaïd de qui ? Oui. En fait, c'est l'autre Zaïd, c'est le roman de Madame de Lafayette. C'est un roman, oui. Édité par Camille Esmin. Je viens de mentionner cette édition nouvelle de Art Amen. Il y a un mouvement de récupération des œuvres un peu oublié. J'ajouterai à tout ceci l'autochtonisme. L'idée que les choses importantes se sont passées chez nous. J'ai travaillé un petit peu sur l'histoire du roman, et donc j'ai lu toutes sortes d'ouvrages sur l'histoire du roman, et c'était très intéressant de voir que les auteurs espagnols considèrent que le roman a été créé en Espagne avec Don Quichotte. En France, on pense que le premier roman moderne est La Princesse de Clèves. En Angleterre, évidemment, on pense que le premier roman est anglais, Defoe, c'est Moll Flanders. Et en Russie, on pense que les premiers vrais romans sont les romans de Tolstoï et de Dostoïevski, donc on ajourne un petit peu le début. Il y a d'autres possibilités. Bon. L'autochtonisme est. Donc c'est un de ces abus de l'historisme. Or, je suis d'accord avec la critique de Morrison et avec cette idée qu'il ne faut pas être chronocentrique, qu'il ne faut pas penser que nous sommes le but de l'univers et qu'il ne faut pas s'imaginer que les événements du passé étaient inévitables. Il reste cependant que les choix historiques, une fois faits, ont des conséquences à long terme et qu'on ne peut pas éviter ces conséquences. Que, l'idée qu'il existe une liberté à chaque moment, une liberté de choix qui est totale à chaque moment, m'inquiète un petit peu. C'est vrai que les choix historiques sont humains. C'est vrai que les acteurs ne prévoient pas les résultats auxquels ils conduiront, mais ces conséquences existent, elles s'imposent. Et donc, la même chose est, me semble vraie au niveau de l'action individuelle. nos vies ne sont pas fermées, ceci est juste. Mais nous ne prenons pas n'importe quelle décision à n'importe quel moment. Je dis ceci pour défendre la tradition narrative et son accent mis sur l'unité de l'œuvre. Au fond, il me semble que vouloir dire que à chaque moment, tout ce que nous faisons est absolument imprévisible, c'est décrire une pratique qui est très proche, au fond, de ce que était l'idéal moral de Sartre. Sartre avait cet idéal moral, et peut-être ça décrit un petit peu le comportement de certaines élites contemporaines qui ont suffisamment de moyens pour faire un peu ce qu'elles veulent, et donc de prendre des décisions dramatiques et de réorienter leur vie. C'est plutôt un idéal qu'une réalité, mais voilà, il me semble que tant dans la réalité de notre existence que dans la représentation fictionnelle de notre existence, les décisions dramatiques sont rares, les grandes décisions sont rares. Comme dit d'une autre manière, les situations limites ne sont pas le bon modèle. Nous ne vivons pas tout le temps dans des situations. Nous ne vivons pas tout le temps dans le malentendu de Camus. Hein, et que les décisions dramatiques, elles-mêmes, sont préparées, orientées par les possibilités mises à notre disposition par la société. Et le fait que nous voyons ceci, le fait que nous sommes conscients de ceci, est en grande partie le mérite non seulement de l'historisme moderne, mais aussi d'auteurs qui, au XIXe siècle, ont beaucoup réfléchi sur nos rapports avec le contexte social et historique. Donc, de nouveau, des auteurs comme Balzac. C'est vrai que les conséquences de nos décisions sont rarement prévisibles. C'est vrai que nous sommes aveuglés par le hasard. Nous sommes entourés par d'autres êtres humains qui ont leur propre projet. C'est vrai que nous sommes souvent incapables de comprendre nos propres désirs. C'est vrai qu'il existe un énigme, un mystère de l'action. C'est vrai, tout ceci est vrai. Mais en même temps, on ne peut non pas absolutiser ceci. Et donc, je veux arriver à dire ceci. La question essentielle, lorsque nous réfléchissons au rapport entre littérature et liberté d'action, n'est pas de savoir si telle œuvre littéraire représente fidèlement la manière dont les hommes prennent leurs décisions. Ce n'est pas là la question. Je suis très content de voir que Balzac sait, il comprend comment les gens prennent leurs décisions. Et que pour lui, c'est un but important, c'est une fin importante pour Balzac de représenter fidèlement la manière dont nous prenons nos décisions et les origines de cette... Oui, mais au fond, il y a d'autres auteurs qui ne s'intéressent pas à cela, et dont les personnages prennent des décisions d'une manière complètement invraisemblable. Et cependant, nous aimons beaucoup ces auteurs-là aussi. Chez Mademoiselle de Scudéry, vous allez voir bientôt que les personnages prennent leurs décisions autrement que nous. Ils font cela de manière tout à fait différente. Mais Mademoiselle de Scudéry a été tellement admirée au XVIIe siècle, et j'espère qu'elle sera de nouveau reconnue à sa juste valeur, parce qu'elle, comme beaucoup d'autres auteurs, entend proposer une vision du destin humain. Elle entend proposer quelque chose qui est invraisemblable, qui est un idéal et qui n'est pas nécessairement une copie de la réalité. Hein. Donc, vous voyez, étant donné cette non-coïncidence entre le jeu et sa vie, on peut la représenter ou au contraire proposer des modèles explicatifs ou des modèles normatifs de l'action humaine. Autrement dit, le caractère ouvert de l'avenir et la possibilité de prendre des décisions imprévues ne constituent pas à eux seuls la marque de la liberté. Alors, si vous voulez, j'avais prévu de parler maintenant de Dostoïevski et ensuite du roman idéaliste et picaresque, mais je vais quand même revenir à une succession historique et dire ceci. La représentation du destin est prime souvent sur celle de la liberté. Oui. On nous présente des personnages, des personnages qui sont orientés autrement que nous le sommes dans notre vie quotidienne. Et je lirai maintenant un tout petit peu d'Artamen, de ce roman de Madeleine de Scudéry, pour voir comment ce personnage et Artamen, ce personnage fortement idéalisé, est vu par l'auteur. Et le roman commence par une catastrophe. Ces romans idéalistes, en général, commencent par la description d'un grand malheur, d'une grande catastrophe. L'embrasement de la ville de Sinope était si grand que tout le ciel, toute la mer, toute la plaine et le haut de toutes les montagnes les plus reculées en recevaient une impression de lumière qui, malgré l'obscurité de la nuit, permettait de distinguer toute chose. Jamais objet ne fut plus terrible que celui-là. L'on voyait tout à la fois 20 galères qui brûlaient dans le port et qui, au milieu de l'eau dont elles étaient si proches, ne laissaient pas de pousser des flammes ondoyantes jusqu'aux nues. Ces flammes, étant agitées par un vent assez impétueux, se courbaient quelquefois vers la plus grande partie de la ville qu'elles avaient déjà toute embrasée et de laquelle elles n'avaient presque plus fait qu'un grand bûcher. du point de vue cinématographique, c'est spectaculaire. Vous imaginez un film qui commence de cette manière. Et on vous explique qu'au milieu de ce grand désordre, au plus bas de la ville, il y avait un château bâti sur la cime d'un grand rocher qui avançait dans la mer. C'est le début. Et après cette description, vous voyez Artamène. Ce fut par cet épouvantable objet que l'amoureux Artamène, après être sorti d'un vallon tournoyant et couvert de bois, à la tête de 4000 hommes, fut étrangement surpris, abasourdi. Aussi en parut-il si étonné qu'il s'arrêta tout d'un coup, et sans savoir si ce qu'il voyait était véritable, donc il ne peut plus évaluer la situation, et sans pouvoir même exprimer son étonnement par ses paroles, il regarda cette ville, il regarda le port, il jeta les yeux sur cette mer qui paraissait tout embrasée, etc. Il regarda la plaine des montagnes, il tourna ses yeux vers le ciel, et sans pouvoir ni parler ni marcher, il semblait demander à toutes ces choses, si ce qu'il voyait était effectif ou si ce n'était point une illusion. Vous voyez que dans la tragédie et dans le poème épique, le malheur frappe à la fin, ou vers la fin. Ici, dans le roman idéaliste, le malheur frappe au début, et il peut se permettre de frapper au début, parce que... Bien qu'il soit très fort, il est aussi assez inconsistant. On ne sait pas, dès le départ, on nous dit, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une illusion. Vous verrez que c'est vrai, mais que c'est en même temps une illusion. C'est un malheur, si j'ose dire, qui manque de profondeur. Dans la tragédie, le malheur, pour ainsi dire, frappe de plein fouet. Il détruit ce qu'il touche. Ici, le malheur effleure sans détruire, parce que tous ces personnages vont résister jusqu'à la fin. Il y aura une série indéfinie de malheurs, ils vont tous résister. Le malheur tire des larmes, il provoque des désespoirs, mais ce sont de faux désespoirs vite démentis par la suite de l'histoire. Et Artamène s'emporte avec une violence extrême en disant « Quoi ? Injuste Dieu » s'écria-t-il. « Il est donc bien vrai que vous avez consenti à la perte de la plus belle princesse qui fut jamais, parce qu'elle était venue, on comprend peu à peu, libérer Mandane, la princesse, ravie par un rival. Hein ? Et que dans le même temps que je croyais sa liberté infaillible, vous me faites voir sa perte indubitable, hélas, mes amis, etc. Il dit, injuste rival, n'as-tu point songé à ta conservation plutôt qu'à la... Mais, cependant, on lui montre, le malheur donc ne fait qu'effleurer le personnage. Je pense qu'un de ses amis, qui après lui, vit presque en même temps deux choses qu'il fit remarquer au même instant à son cher maître. « Seigneur, lui dit-il, ne voyez-vous pas en mer une galère qui vogue et qui semble faire beaucoup d'efforts pour s'éloigner de cette malheureuse ville ? Et ne voyez-vous pas encore comme quoi il semble que l'on ne songe qu'à éteindre le feu qui s'approche de cette grosse tour qui est sur le portail du château et que l'on abandonne tout le reste pour la conserver ?»« Je vois l'un et l'autre, répondit Artamène. » « Je ne sais, ajouta Crisante, si ce n'est point une marque assurée que la princesse n'a pas encore péri, puisqu'il peut être qu'elle est dans cette galère ou dans cette tour que les flammes n'ont pas encore embrasée. » « Hélas !» s'écria tout d'un coup Artamène, « s'il était ainsi que je serais heureux de pouvoir conserver quelque espoir. » Parce que dans ce roman, dans ce type de roman, le malheur n'efface pas l'espoir. il est conçu de telle manière pour que l'espoir survive. Et on a beaucoup critiqué, on a un peu parlé de cela la semaine dernière, il y a 3 semaines, mais on a beaucoup critiqué le caractère épisodique de ces romans. Il y a une série indéfinie de malheur qui effleure et d'espoir au pluriel qui renaissent. Hein. Dans ces romans, c'est précisément parce que on veut nous montrer, ces romans veulent dévaluer l'adversité. C'est pas l'adversité implacable de la tragédie, c'est une adversité dévaluée. Artamène, bien qu'il soit désespéré, il réussit tout de suite à retrouver l'espoir et à se battre. Les forces de la contingence sont là, mais elle semble bien vouloir dire que je ne suis pas ma vie, mais en réalité, elle se trompe, puisque j'ai la force de rester indifférent, comme Artamène, au coup du destin, et de poursuivre le bien qui est l'objet de mon désir, à savoir la princesse. Hein. Et y a deux sortes, donc, d'adversité dans le roman idéaliste. Cette adversité qui vient de la production indéfinie de contingence, d'une part, et d'autre part, il y a les ennemis. Il y a ce rival, le roi d'Assyrie, qui a ravi Mandane. Et vous voyez, au fond, bien que ces romans soient plus ou moins prévisible. On sait bien qu'il y aura peut-être des épisodes d'une extraordinaire variété et diversité, mais qui disent tous la même chose. Artamène doit sauver à chaque coup Mandane, qui est chaque fois kidnappé, pour ainsi dire, par quelqu'un d'autre. Hein. Et ça dure pendant des milliers et des milliers de pages. C'est un tout petit peu comme l'équivalent du XVIIe siècle des soap operas de nos jours, ou des séries télévisées. Le Fugitif, qui est une série télévisée qui avait beaucoup de succès quand j'étais jeune, c'était cela. Il échappait chaque fois et on regardait, on savait tous qu'il est presque pris, mais qu'il va... Je ne sais pas si on peut dire que, tout simplement parce que c'est très artificiel, c'est très idéalisé, c'est tout à fait prévisible et en même temps il y a du suspense, qu'on peut dire, comme le font ces critiques que je viens de citer, qu'il n'y a pas de représentation du tout de la liberté. Mais si il y a une représentation assez primitive, si vous voulez. Quoique je n'aime pas du tout de faire cette distinction entre eux qui étaient primitifs et nous qui sommes tellement plus intelligents. Mais disons, une représentation un peu plus rudimentaire, une représentation un peu plus idéalisée, plus simplifiée de la liberté. Parce que Artamène est décrit dans sa force d'agir. C'est quelqu'un qui garde la force d'agir contre l'adversité. Et ceci est la forme, c'est la condition élémentaire de la liberté. Bon, c'est vrai que ceci n'est pas la seule forme possible, puisqu'il y a aussi le picaresque. Le picaresque qui représente la même chose, mais d'une manière ironique, d'une manière satirique, en montrant précisément que la véritable adversité est l'absence totale d'idéal et de normes dans la vie qui nous entoure. Et il y a dans le picaresque une hésitation entre l'innocence et le cynisme. Mais c'est le même mécanisme. C'est des aventures qui se reproduisent indéfiniment dans une série indéfinie, interminable d'épisodes qui ont tous la même structure. Je vous lis un passage de Gilles Blas, qui est une imitation de Le Sage d'un roman espagnol. Donc c'est du vrai picaresque, Le personnage est, doit nous expliquer son origine. Ça ne commence pas comme les romans idéalistes par une catastrophe. Artamène n'a pas besoin d'être présenté tout de suite. C'est un prince, c'est un roi, c'est un héros. Il suffit de le voir dans sa splendeur. Il suffit de l'admirer. On découvre plus tard son origine qui est compliquée. Enfin, c'est un de ces enfants qui ne connaissent pas nécessairement ses parents tout de suite. Enfin, mais on n'a pas besoin de justifier son existence. Dans le roman picaresque, qui refait disons, sous le biais du comique, ces structures épisodiques, les personnages sont des personnages humbles. Et il faut préciser d'où ils viennent, il faut préciser leur origine. Blas de Santillane, mon père, après avoir longtemps porté les armes pour le service de la monarchie espagnole, se retira dans la ville où il avait pris naissance. Il y épousa une petite bourgeoise qui n'était plus dans sa première jeunesse, et je vins au monde 10 mois après leur mariage, ainsi de suite. Nous avons, pour qu'on puisse s'intéresser à ce personnage, il ne suffit pas qu'il soit là. Il doit nous expliquer d'où il vient. C'est les romans qui commencent par ce type de soucis biographiques sont en général des romans qui nous parlent d'être anonymes, des anonymes qui doivent compenser leur anonymat en racontant des origines qui sont trop obscures pour être évidentes. Et les traits de la famille sont des traits grotesques. La bassesse ici est considérée comme une marque de réalité. Il est mis il y a un oncle chanoine, l'oncle du personnage chanoine qui se nommait Gilles Pérez. Il était frère aîné de ma mère et mon parrain. Il le décrit, « Représentez-vous un petit homme, haut de 3 pieds et demi, extraordinairement gros, avec une tête enfoncée entre les deux épaules. Voilà mon oncle. » Au reste, c'était un ecclésiastique, et il explique, qui ne songeait qu'à bien vivre, c'est-à-dire qu'à faire bonne chère, et sa prébende, qui n'était pas mauvaise, lui en fournissait les moyens. Il me prit chez lui dès mon enfance, et il se chargea de mon éducation. Je lui parus si éveillé qu'il se chargea, qu'il résolut de cultiver mon esprit. Il m'acheta un alphabet, et entreprit de m'apprendre lui-même à lire, ce qui ne lui fut pas moins utile qu'à moi. Car, en me faisant connaître mes lettres, il se remit à la lecture, qu'il avait toujours fort négligée. C'est-à-dire, il apprenait en même temps que le jeune homme. Et à force de s'y appliquer, il parvint à lire couramment son bréviaire, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Donc, vous voyez le genre de monde. Nous sommes dans le monde de l'imperfection totale. Nous sommes dans un monde de... j'insiste sur l'imperfection, parce que nous allons la retrouver tout de suite. C'est une imperfection, disons, qui couvre de manière uniforme l'univers. Tout est imparfait et même tout est vicié dans ce monde. Ici, la vérité se limite à des situations type caricaturales. Le personnage part chercher l'aventure, il veut réussir dans la vie, il ressent une mule de ses parents, il vend cette mule, il arrive à un hôtel. Je demandais à souper, dès que je fus dans l'hôtellerie, c'était un jour maigre, on m'accommoda des œufs. Il flirte un peu avec l'hôtesse je n'avais pas encore mangé le premier morceau que l'hôte entra, suivi de l'homme qu'il avait arrêté dans la rue. Ce cavalier portait une longue rapière et pouvait bien avoir 30 ans. Il s'approcha de moi d'un air empressé. « Seigneur écolier, me dit-il, parce qu'entre-temps, Gilles Blas a fait des études de philosophie, et il était devenu un philosophe qui, comme il dit, je m'appliquais aussi à la logique qui m'a appris à raisonner beaucoup. J'aimais tant la dispute que j'arrêtais les passants, connus ou inconnus, pour leur proposer des arguments. Je m'adressais quelquefois à des figures hibernoises qui ne demandaient pas mieux, et il fallait alors nous voir disputer. Et quel geste, quelle grimace, quelle contorsion. Nos yeux étaient pleins de fureur et nos bouches écumantes. On nous devait plutôt prendre pour des possédés que pour des philosophes. Donc, Seigneur écolier, je viens d'apprendre que vous êtes le Seigneur Gilles Blas de Santillane, l'ornement d'Oviedo et le flambeau de la philosophie. Est-il bien possible que vous soyez ce savantissime, ce bel esprit de la réputation, etc. C'est moliéresque, vous le connaissez, et vous vous rendez bien compte qu'il le flatte, mais à la suite de cette flatterie, il réussira à lui soutirer pratiquement tout son argent. Mais ici aussi, nous n'avons pas l'adversité grandiose, l'incendie qui détruit toute une ville, nous avons la mésaventure. Nous avons la mésaventure, petit contretemps qui, eux aussi, frappent sans détruire, frappent de manière persévérante sans jamais détruire. Ces mésaventures blessent, mais de manière cocasse. Les personnages d'ici sont comme les personnages que vous avez sûrement vus des premiers films muets de Chaplin, ces personnages comiques qui se cognent la tête contre toutes les portes, enfin, qui ont toujours une série indéfinie de petites mésaventures ridicules. Donc, je ne suis pas ma vie signifie ici, je suis en proie d'une adversité humiliante pour moi, mais qui est burlesque, qui est divertissante pour les autres. Ouais. Donc, dans ces deux cas, dans les grands romans idéalistes du XVIe, XVIIe siècle, dans les romans picaresques du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, la liberté est représentée dans les deux cas comme une lutte avec la contingence du monde. Contingence qui est représentée par cette suite d'épisodes. Et c'est très intéressant de voir que la réflexion sur l'unité, puisqu'on nous parlons de ce reproche fait à la tradition narrative de trop accentuer sur l'unité. L'unité a été l'unité du roman, l'unité d'action est une chose qui ne vient pas véritablement du sein du roman. Elle est injectée un peu du dehors de notre genre littéraire, qui est la nouvelle et qui était un genre court et proche du drame, et qui cherchait à reproduire dans le narratif l'unité dramatique d'une tragédie ou d'une comédie. Donc, en quelque sorte, la liberté a été représentée comme cette lutte épisodique et continuée indéfiniment contre une adversité un peu chaotique du monde, et l'unité a été introduite précisément parce que les auteurs qui l'ont fait voulaient proposer des modèles de maîtrise de notre vie. Des modèles de maîtrise de notre vie, non pas tout simplement en tant que résistance à l'adversité, à la suite de l'adversité représentée provoquée par la contingence, mais aussi comme un modèle de vie, comme ce qu'on appelle de nos jours, disons, un projet, un plan de vie. Mais ce plan de vie, tel qu'il a été conçu au XVIIIe siècle par de grands auteurs, en Angleterre par Samuel Richardson, en France par Jean-Jacques Rousseau, plus tard par Laclos, le roman ne mise plus sur la diversité absolue des épisodes et sur la représentation de cette contingence un peu chaotique du monde. Le roman commence à miser sur les liens entre les différentes parties d'un seul roman. Et j'ai déjà analysé ailleurs, j'ai écrit sur Pamela, ce roman de Richardson que... Je trouve, comme d'ailleurs les légendes du XVIIIe siècle ont trouvé, que c'était une immense réussite. Il a été traduit dans toutes les langues, il a été lu par tout le monde jusqu'au début du XIXe siècle. Pamela garde une structure épisodique. Et il y a une adversité. C'est le maître de Pamela qui essaie de la violer. Et Pamela résiste et le maître change d'angle d'attaque. Et comme Pamela est vertueuse, il finit par tomber amoureux d'elle. Et ce sont des épisodes, un petit peu comme les épisodes de Gil Blas ou de d'Artamène. Elle est toujours dans une situation de lutte avec une adversité qui l'effleure, parce qu'elle réussit chaque fois à être plus forte que son maître. Mais en même temps, il y a comme une sorte de progression interne, de progression logique. Ce n'est pas tout simplement une suite indéfinie d'épisodes. Ce n'est pas véritablement un soap opera ou The Fugitive. Ce n'est pas le fugitif. Il y a le maître comprend, qui est une brute, il comprend peu à peu cette brute, que lui, l'aristocrate, est, du point de vue moral, inférieur à qui ? À sa propre servante. Il a de la difficulté à accepter ceci, mais il est tellement angoissé par cette femme qui lui résiste, cette jeune femme qui lui résiste, qu'il lit son journal. Il fait quelque chose qui, surtout dans un monde... Dans le monde anglophone, être indiscret, lire les lettres de quelqu'un, lire le journal de quelqu'un, c'est mille fois plus grave que n'importe où ailleurs, il faut dire ça. Mais il le fait. Et il a la révélation de la grandeur morale de cette fille qui, dans son journal, décrit la difficulté de résister à un maître pour lequel, au fond, elle le laisse entendre, elle a de la sympathie. Donc, vous voyez, c'est un roman épisodique, construit un peu comme les romans idéalistes ou picaresques, sur le mode de l'adversité qui touche, qui effleure, et à laquelle on peut résister, la liberté étant celle de résister à l'adversité, mais en même temps, il y a une croissance, il y a comme ça, il y a déjà les rudiments d'un roman de formation, d'un Bildungsroman. Ce maître, qui était une brute au début, se civilise à la fin et il épouse Pamela. Et elle est d'accord parce qu'au fond, elle était amoureuse de lui. Elle était amoureuse de lui depuis le début. Bon. Voici pourquoi il est difficile de condamner l'unité narrative au nom de la liberté, comme le font ces critiques pour lesquelles j'ai tant de sympathie. Et c'est difficile surtout, et là je passerai donc du roman idéaliste et picaresque, je passerai à Dostoïevski, donc au roman véritablement réaliste, et un roman réaliste tel que... les descriptions de Dostoïevski auraient pu figurer dans Balzac. On voit que Dostoïevski a beaucoup appris de Balzac. Il a beaucoup appris de Eugène Sue aussi. Il a beaucoup. Vous lisez Eugène Sue ? Quelqu'un ici lit Eugène Sue ? Oui, c'est très bon. C'est très très bon. Les Mystères de Paris, c'est formidable. Il faut lire cela. C'est un grand livre. Bon, évidemment, c'est pas réaliste. Mais c'est très émouvant, c'est complètement invraisemblable. Mais Dostoïevski adorait cela, et les tirades des personnages, les tirades larmoyantes, avec des points de suspension des personnages dans Les Mystères de Paris, reviennent chez Dostoïevski. Les personnages de Dostoïevski parlent de manière tellement incohérente et démentielle parce que Dostoïevski a bien étudié Eugène Sue et il a appris cela le côté larmoyant chez Eugène Sue. D'ailleurs, j'ai Victor Hugo aussi. Et donc, nous passons à Dostoïevski, auteur réaliste, qui, selon beaucoup d'auteurs, selon Bakhtin, selon ses amis à moi, est un auteur qui découvre véritablement la liberté. La liberté, non pas simplement la liberté, mais la liberté de la subjectivité. Il y a des subjectivités telles que... je ne sais pas quel est le sens du mot subjectivité, je dois avouer cela, mais bon, puisque ces gens-là l'emploient, je l'emploie moi aussi. Mettons la personnalité, on va tout simplement dire... ces personnes sont tellement indépendantes que Bakhtin soutient que Dostoïevski n'a pas de contrôle. Dostoïevski ne contrôle pas ses personnages. Ses personnages font ce qu'ils veulent. Font ce qu'ils veulent. Et le pauvre Dostoïevski est là en train de noter ce qu'il les voit faire et il nous communique cela à nous modestement. Des subjectivités indépendantes. Et en plus, il y a une multiplicité de voix, une polyphonie. Chacun de nous qui avons lu Dostoïevski, nous savons que ces personnages parlent indéfiniment. Ils bavardent à n'en plus finir. Ils sont chacun obsédés par toutes sortes de choses qu'ils nous racontent. Hein? Oui. J'essaie donc ici de vous présenter rapidement et de manière aussi juste que possible et tolérante que possible l'argument en faveur de la liberté de ces personnages. Et ensuite, je vous dirai mon opinion là-dessus. Ils sont libres, nous dit Bakhtin, ils sont libres, nous dit Morrison, parce qu'ils agissent de manière tout à fait imprévue. Et il y a une scène dont nous nous souvenons peut-être tous, à la fin de Crime et Châtiment. C'est une scène qui m'a toujours beaucoup frappé. Vous savez que dans Crime et Châtiment, Raskolnikov, qui est un garçon très gentil, il croit à la liberté humaine. Il croit que l'homme est libre. Et surtout les hommes supérieurs sont libres. Comment on est libre et, non seulement on est libre, mais comme on l'enseigne le XVIIIe siècle, l'homme est l'auteur de ses propres lois. L'homme légifère, nous légiférons. La loi morale, on la trouve dans notre cœur. Lisez, si vous avez le courage, relisez... La nouvelle Héloïse, la morale est dans le cœur de Julie. Cette loi morale lui dit qu'il faut qu'elle fasse son devoir, qu'elle sauve son enfant qui est en danger de se noyer. Sa loi, elle la lit dans son propre cœur. Mais Raskolnikov lit dans son propre cœur que pour être véritablement l'auteur de la loi morale, il doit s'affirmer. Et il doit s'affirmer en n'obéissant pas à la loi de l'État. Et qu'il a le droit, s'il décide de faire ainsi, de tuer un autre être humain. Il va essayer de tuer quelqu'un qui est inutile et qui est même méchant selon lui. C'est une usurière, une vieille usurière, qui selon lui n'a pas une véritable utilité pour la société. Mais il ne la tue pas pour la punir d'être inutile, il la tue pour montrer qu'il est lui l'auteur de la loi morale. Et vous savez ce qui se passe, il le fait, mais ça tourne mal parce qu'il n'a pas réussi à savoir il ne savait pas qu'il allait avoir du remords. Il a du remords. Il est pris dans ce piège du remords. Il vit à cause de cela dans un état d'exaltation extrêmement dangereuse. Il ne sait plus ce qu'il dit. Et il décide à la fin, après de longues hésitations, il tombe amoureux, on n'entre pas dans les détails, il décide à la fin de se livrer à la police. Et la scène où il décide de se livrer à la police est une scène de quelques pages. Il monte au commissariat, il ressort, il voit devant lui, son amie Sonia, qui est une sainte, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa famille, et il voit le regard de Sonia, c'est ce regard qui vient du ciel, c'est un regard extraterrestre, c'est quelque chose qui... Et il remonte. Voilà. C'est un moment d'hésitation, c'est imprévu, c'est effectivement tout à fait imprévu. Et on peut présenter ceci comme une représentation de la liberté, mais on peut aussi représenter ou comprendre ce genre de comportement comme étant celui d'être qui tout à fait désorienté. Ce sont des êtres. Raskolnikov n'est pas un être libre. Raskolnikov est un maniaque, est un être désorienté. C'est quelqu'un qui d'abord est maniaque parce qu'il a une idée fixe, celle de prouver sa liberté en tuant quelqu'un d'autre. Donc il y a déjà une critique de la liberté. Il y a déjà une critique de la liberté ici. Dostoïevski, qui est un de ces auteurs qui sont extrêmement opposés aux Lumières. C'est un des ennemis déclarés des Lumières, il faut le dire. Il faut le dire. Et pour lui, la véritable attitude, la meilleure attitude humaine possible et imaginable est de se résigner, de se donner complètement, de s'abandonner devant la divinité. Il est profondément chrétien orthodoxe, il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est comme le fait Sonia Marmeladova, comme le font les personnages véritablement proposés comme modèle. Donc, ces gens qui sont un petit peu, qui ont des attitudes, ou prennent des mesures imprévues, comme l'homme du souterrain ou Raskolnikov, sont des maniaques pour Dostoïevski. Ce sont des maniaques, ce sont des fous qui, que Dostoïevski présente comme des. Avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de sympathie, si vous voulez, puisque ce sont des êtres humains. Et Dostoïevski lui-même est comme Sonia Marmeladova et sympathise avec ces êtres déchus. Mais ce sont des êtres déchus victimes d'un véritable tourbillon. Ils sont au cœur d'un tourbillon et ils disent n'importe quoi, comme le font beaucoup de personnages de Dostoïevski qui parlent d'une manière complètement incohérente. Hein? Alors, je vais essayer de retrouver mes notes. Bon, je ne les trouve pas, mais donc, je continue quand même. Pour Dostoïevski, ce qui l'intéresse de présenter, ce n'est pas le fait que nous ne sommes pas libres à cause d'un tel déterminisme historique, parce que, disons, comme Lucien de Rubempré, il a un certain type, ou même biologique, il a un certain type somatique, donc il est en quelque sorte destiné de prendre une certaine option sexuelle plus tard. Ou alors parce qu'il a une certaine origine, que sa famille a été la victime de violence pendant la Révolution. Enfin, il aura un certain destin. C'est pas du tout ça. Dostoïevski ne pense pas que nous sommes déterminés au niveau historique. Mais il ne pense pas que nous sommes libres de faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et l'idée qu'on peut faire n'importe quoi de manière imprévue à n'importe quel moment est une des erreurs qu'il essaie de critiquer et d'éviter, disons, dans ses romans. Parce que les personnages qu'il nous présente sont les victimes de cette illusion, que nous sommes libres. Donc, je dis tout ceci pour essayer de... Je ne conclue pas maintenant, puisque nous allons parler de Balzac, qui a une vision complètement différente, mais je conclue ici sur Dostoïevski en disant qu'au fond, il me semble que... bien que Dostoïevski soit un immense écrivain et qu'il écoute extrêmement bien le délire de ses personnages désorientés, qu'il écoute très très bien la désorientation humaine, hein, et le chaos intérieur, il sait le surprendre très 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 bien, ses romans sont très bien construits. Ses romans sont extrêmement calculés. Et que, même, je dois dire, jusqu'à il y a quelques années, je ne connaissais pas le roman à thèse. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais lu Le disciple de Paul Bourget, que j'ai finalement lu et qui n'est pas mal. C'est une œuvre qui est bien faite, malheureusement, elle est méprisée, mais c'est assez bien construit. C'est un vrai artisan, il sait ce qu'il fait. Il a une thèse. Il a une thèse et qu'il exprime clairement du début à la fin, et les personnages se conduisent selon la thèse de l'auteur. Mais je dois dire que si on lit attentivement Dostoïevski, et si on va un peu au-delà de cette splendide représentation des voies désorientées et de la désorientation, si on va un peu au-delà de ça, qui est infiniment mieux faite que tout ce que Paul Bourget pourrait faire dans ce domaine, au fond, les romans, ce roman en tout cas, Crime et Châtiment, et plus tard Les Possédés, sont des romans à thèse. Ils sont des romans à thèse. Dostoïevski a des thèses qu'il veut prouver, et il manipule ces personnages désorientés qui sont entre ses mains, je dirais, comme des marionnettes. S'il y a un auteur dont les personnages n'ont absolument aucune initiative par rapport, non pas par rapport à eux-mêmes, mais par rapport à l'auteur, ce sont les personnages de Dostoïevski qui manipulent comme ça, comme c'est comme des personnages de Guignol, hein, comme de Guignol. C'est un Guignol bien fait. C'est un Guignol, évidemment, qui ne se contente pas de dire au revoir les enfants, à bientôt, et comme fait le Guignol, mais qui font des tirades infinies sur le Dieu, sur le péché, sur la liberté, etc. Mais ce sont de véritables marionnettes. Donc, il me semble très, très difficile d'arriver, lorsqu'on nous parlons de littérature, de dire voilà la spontanéité absolue qui est plus forte. Les œuvres littéraires sont quand même des constructions. Ce sont des œuvres. Et les artistes sont quand même des artisans. Ils proposent des modèles. Ils proposent des modèles qui sont plus ou moins idéalisés, qui sont ironiques, etc. Mais il n'y a pas. C'est un peu une idée exagérée de s'imaginer que il y a des auteurs qui voient si bien le réel que le réel parle plus fort qu'eux et qu'eux, ils ne font aucun calcul. Hein. Et la semaine prochaine, nous allons parler de deux auteurs qui sont aussi essayent de présenter des modèles aussi proches que possible de la réalité, mais nous verrons quand même qu'il y a toute cette marge d'idéal qui est là, à la fois dans Balzac et d'une manière complètement différente dans Stifter. Si vous ne connaissez pas encore L'homme sans postérité de Stifter, Adalbert Stifter, un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature, qui est malheureusement moins connu. C'était un des auteurs préférés de Nietzsche, entre autres, et de Bonhoeffer aussi. Stifter, S-T-I-F-T-E-R, et le roman s'appelle. C'est un petit roman, ça s'appelle « L'homme sans postérité ». C'est une mauvaise traduction d'un terme qui signifie « le célibataire endurci ». Mais ça ne se vendrait pas, un roman qui a le titre « le célibataire endurci », qui veut lire. Tandis que « L'homme sans postérité », on est tous émus. Donc, bon. C'est en poche, oui, c'est en poche, Phébus. Phébus, c'est Phébus. Oui. Et c'est pas cher. Hein. Voilà. Une autre annonce. Dans deux semaines, nous aurons un colloque. Nous aurons un colloque de deux jours qui tient la place du séminaire. Et c'est un colloque dont le titre a été choisi à dessein, de manière un peu vague, « Voyage au centre du récit ». Mais il y aura dans la première journée, ici, au collège, une discussion de la littérature qui est assez proche de ce que nous parlons, ce dont nous parlons ici au cours. Il y a des personnalités comme Michel Murat, Marielle Massé, Philippe Dufour, Philippe Roussin, Vincent Descombes et Jean-Marie Schaeffer. Et le lendemain, on continue à l'école normale supérieure le samedi. Ne ratez pas cela parce qu'il y a de grands écrivains qui seront ici. Il y a l'écrivain français Richard Millet, dont vous avez peut-être lu les romans, sinon lisez-le, il a une langue sublime. Et Antonia Bayat, qui est une des plus importantes écrivaine anglaise contemporaine. Vous avez peut-être, vous vous souvenez du film Possession et du livre Possession. Le film est d'après son livre. Elle est une personnalité extrêmement forte. Il faut l'entendre et la voir. Elle parle français. On va essayer, s'il a des difficultés, à faire aussi un peu de traduction. Je vais passer le programme du séminaire pendant la discussion. Donc, nous avons encore quelques minutes pour des questions. Passez, s'il vous plaît, le programme de ce séminaire. Et surtout, la première journée, c'est évidemment, c'est bon, c'est très très bien, c'est savant, mais dans la deuxième journée, vous avez la chance de voir et de pouvoir parler avec des écrivains, puisque ça va être très détendu, ça va être une table ronde, et le public aura la possibilité de poser des questions. Hein. Bon, je vais passer ici. Salut. Oui. Hein? Ok, voilà. Quelques pages ici. C'est de Samuel Richardson. Oui, c'est très beau, c'est très ennuyeux aussi, mais c'est très beau, oui. Bon, voilà, voilà, faites-les passer. Il y en aura encore qui arrivent, parce qu'il y en avait plein. Il y en aura encore. Non, reste un peu. Bon. Hein? Oui, on a besoin encore de quelques feuilles là au fond. Hein. Si vous en avez, vous m'en donnez. Oh, pardon, et vous m'excusez. Voilà. Hein? Ah, voilà. Voilà par ici. Hein. Voilà, merci. Bon. Bien. Alors, oui, voilà, on a un micro aussi. Ça, de point de vue technique. Oui, merci. Hein? Voilà, c'est ici.
Oui, j'ai une question au sujet de Dostoïevski et justement de cette critique des critiques américains qui, parce que j'ai pas très bien compris quel type de, comment est-ce qu'il voyait la liberté justement dans.
Mais c'est ça, oui.
Parce que je voudrais relier, je voudrais faire le lien avec, par exemple, un cas plus précis ou plus visible dans André Gide, Les faux moyenâgeurs, où on a là un cas de libre arbitre, d'acte gratuit. Parce qu'on ne peut vraiment pas considérer que Raskolnikov commet un acte gratuit. Tout est expliqué pour nous dire que toutes les raisons intérieures, inconscientes ou morales, ou non, psychologiques, disons, pour tuer, il les a. Il rationalise. Il explique rationnellement qu'il est libre, mais en fait, tout est dit aussi qu'il ne l'est pas, qu'il est déterminé.
Exactement.
Donc, ma question c'était par rapport aux critiques américains. Oui. Comment ils ont pu en venir à cette idée-là?
C'est pas que tout simplement parce que ils sont américains qu'ils ont dit cela, puisque Bakhtin n'était pas américain et tout ceci est déjà dans Bakhtin. Mais ces critiques ont tendance à considérer que à identifier liberté et action imprévue. Vous voyez? Et c'est une vision sympathique, parce que action imprévue, c'est plus sympathique qu'acte gratuit. Parce que l'acte gratuit présuppose quand même un calcul. Voilà, je vais faire quelque.
Un calcul,
Oui, oui.
Mais oui, exactement. Mais même si on définit la liberté comme acte, comme action imprévue, la capacité de faire des actions imprévues, d'agir de manière imprévue, même si on le fait, même si c'est cette définition, elle ne s'applique pas à Raskolnikov. Elle ne s'applique pas. Oui, oui. C'était un petit peu le sens aussi de ma critique. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, exactement. Oui, oui. Oui.
Est-ce que la liberté mène à la prise de conscience de sa propre responsabilité dans le choix du destin?
Oui, oui, voilà. Voilà. Oui, mais disons que cette question, nous allons précisément la traiter à propos d'autres auteurs. C'est-à-dire, oui, j'essaie de dégager peu à peu en utilisant toutes sortes de modèles littéraires, d'idéaux proposés par des écrivains, comment on peut, à partir de cette simple non-identité, je ne suis pas ma vie. Donc il y a quelque chose là qui n'est pas déterminé absolument. Comment on peut peu à peu arriver à l'idée de responsabilité? Dans la dernière leçon, nous allons parler de deux textes. Un de Henry James qui est sublime, La bête dans la jungle. Je suis sûr que vous devez connaître cela. Sinon, il y a une édition bilingue dans Garnier Flammarion, parce que même si vous connaissez un tout petit peu, disons, si votre anglais n'est pas vraiment au niveau, c'est pas mal de pouvoir regarder un tout petit peu du côté de... C'est une bonne traduction, d'ailleurs, c'est une très bonne traduction. Et nous allons parler d'un auteur hongrois, Sándor Márai. Sándor Márai, dont le roman Braise est un livre de poche. C'est un des... La traduction n'est pas véritablement parfaite, mais c'est un des plus beaux romans du XXe siècle. C'est un auteur qui est né en 1900 et il est décédé en 1989. C'est un très grand écrivain. Et dans Braise, précisément, on va parler de cette responsabilité face à la promesse, à l'engagement. Vous voyez. Donc, je ne veux pas anticiper sur cette partie-là du cours, mais évidemment, il n'y a pas de véritable liberté si... À l'horizon, il n'y a pas cette idée, ou ce sentiment profond de responsabilité. Oui.
Je la vois un peu prise, excusez-moi. Oui, lorsque vous parliez tout à l'heure dans la représentation du destin de Mademoiselle Scudéry, vous mettiez cette représentation dans l'ordre de l'idéaliste, d'accord? Vous disiez que c'était de l'idéalisme, enfin une forme d'idéalisme, dans le roman idéaliste. Vous le
mettez. Oui, c'est ça.
Mais je pensais que dans le roman idéaliste, il y avait en fait toute une tradition de la pensée aristocratique qui fait que, où l'aristocrate, enfin le seigneur doit sauver le malheureux, la veuve. Et je ne sais pas si c'est tellement idéaliste, en fait. Voilà, c'était ma question. Je trouvais que c'était relié quand même à toute une philosophie sociale, une relation. Pas spécialement de l'idéalisme. Voilà, c'était mon idée.
Oui.
Parce que vous disiez qu'il y avait une représentation assez primitive, rudimentaire de la liberté, que la force d'agir est toujours gardée, en dépit des contingences, mais je pense que c'est quand même un idéal aristocratique. Par exemple, j'ai connu des aristocrates qui avaient comme devise « Victor et inermis », vainqueur même des armées. Je crois qu'il y a vraiment quand même dans l'idéal aristocratique quelque chose qui fait que dire une liberté profonde. Contrairement à la bourgeoisie, qui était quand même assez aliénée, dans l'aristocratie, il y avait une forme de liberté, ne serait-ce que par rapport au roi. Donc il y avait toute une notion de liberté, qui n'était pas uniquement de l'idéalisme, qui était inscrit dans un fonctionnement.
Tout à fait d'accord. Mais vous voyez, comment expliquer je suis tout à fait d'accord avec qu'il est toujours possible de faire des raccords entre les œuvres littéraires et les idéaux de l'époque. Contre-intuitif de dire que cela n'a pas lieu. Cela a lieu, c'est évident que ça a lieu. Mais en même temps, moi, personnellement, dans ce cours et dans mon travail, j'ai toujours essayé d'éviter de faire ceci. Parce qu'il y a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi.
Mais justement, ce qui me gêne un peu, moi.
Laissez-moi continuer. Oui. Si ça vous gêne, lisez les gens qui font ceci beaucoup mieux que moi. Moi, ce que j'ai réussi un peu mieux à faire, moi, disons, là où ça marche, c'est dans certains types de rapports de tradition historique plus longue, de longue durée. Parce que lorsqu'on regarde la littérature française, c'est vrai que les œuvres écrites par des auteurs français en France, c'est vrai que le public était, comme vous dites, un public aristocratique. Mais ces œuvres-là, au XVIIe siècle, n'auraient jamais été telles qu'elles sont si on n'avait pas traduit au milieu du XVIe siècle le roman grec en France. Oui. Si on n'avait pas traduit, si Amyot n'avait pas, si on n'avait pas redécouvert et traduit les Éthiopiques. Puisque le schéma d'action de ces romans répétitifs, à action noble, vient de... Et de nouveau, je ne sais pas quelle est l'origine sociale des Éthiopiques, mais les personnes qui connaissent le problème mieux que moi disent qu'au fond, c'est un idéal plutôt... middle class, c'est une idée. Dans les Éthiopiques, il y a comme une sorte de réflexion qui a lieu dans le monde du commerce, puisque c'est précisément, est-ce vrai, je ne sais pas, de nouveau, je suis très méfiant à l'égard de tout ceci, mais tous ces naufrages et tous ces voyages se font dans un monde déjà unifié, dans le monde de la Méditerranée unifié, et où ce n'est pas nécessairement une des valeurs aristocratiques. Et donc, je dis idéaliste parce que ces romans, non pas idéaliste au sens de l'idéalisme allemand, mais parce que ces romans, comme procédure littéraire, idéalisent la vie quotidienne, ou idéalise la vie. Ces personnages ne sont pas comme mes amis ou comme vos amis. Ah, vous, peut-être que vous connaissez des Artamènes, mais ils idéalisent certaines vertus, certaines vices. C'est dans ce sens que c'est considéré idéaliste, vous voyez. Ouais. Et de nouveau, les gens qui savent le faire mieux que moi savent lier l'œuvre littéraire à leur période, mais un de mes buts toujours dans ma vie a été de dire non au déterminisme historique, de dire non.
Oui, voilà. Mais dans ce cas-là, ça reste quand même très subjectif. C'est... Bon. Est-ce que c'est vraiment scientifique aussi, hein?
Oui.
Non, je serais content
de vous remercier d'avoir souligné le fait que mes prétentions ne sont pas scientifiques.
Non, mais attendez, je suis très content de vos cours.
Moi, je veux tout simplement voir comment moi et les gens qui ont des moi, qui ont des jeux, qui possèdent, lisent des œuvres littéraires plutôt que de vous expliquer de manière scientifique pourquoi ces gens ont écrit ce qu'ils ont écrit sur l'influence de la lutte de classe. Bon, sur ce dialogue mélodramatique, on va se voir donc la semaine prochaine. Lisez Stifter, c'est extraordinaire. Bon, merci.
Une question plus personnelle, c'est pour ça que je ne l'ai pas posée, c'est au sujet de Ulysses de Joyce.
Oui.
Parce que quand vous avez parlé du stoïcisme, enfin du stoïcisme grec qui se retrouve dans le...
Oui.
Le...